Deuxième partie. Le peintre fou. Mercredi 21 décembre. Chapitre 5. Le destin à la gorge. La vie ne fait pas de cadeaux. Jacques Brel. 1. La tête qui bourdonne. Le cœur qui palpite et se contracte. Le sommeil inquiet qui d'un coup se déchire. Le claquement de la porte d'entrée fit tressaillir Gaspard et l'arracha à sa somnolence. Il lui fallut plusieurs secondes pour émerger. D'abord, il ne sut pas où il était, puis il se rendit à la triste réalité. Il s'était endormi en chien de fusil dans le vieux fauteuil Ames de Sean Lawrence. Trempé de sueur, son t-shirt était collé au cuir du siège et son visage écrasé contre l'accoudoir. Il se mit debout, péniblement, se frottant les paupières, se frictionnant la nuque et les côtes. La gueule de bois dans toute son atrocité. Mal de tête, goût de ciment dans la bouche, nausée, articulations rouillées. Scène rituelle après laquelle il se jurait chaque fois qu'il ne toucherait plus une goutte d'alcool. Mais il savait que cette résolution était fragile et que dès midi, il aurait envie d'un verre. Coup d'œil à sa montre. 8 heures du matin. Coup d'œil à travers la baie vitrée. Ciel pâle, mais pas de pluie. Il devina que Madeleine venait de partir et fut un peu honteux qu'elle l'ait vue dans cet état. Il se traîna jusqu'à la salle de bain, resta un quart d'heure sous la douche, buvant l'équivalent d'un demi-litre d'eau tiédasse directement au pommeau. Il attrapa une serviette qu'il enroula autour de sa taille et sortit de la cabine en se massant les tempes. Sa migraine empirait, lui éraillant le crâne avec obstination. Il lui fallait d'urgence 2 comprimés d'ibuprofène. Il fouilla dans son sac de voyage, mais ne trouva rien qui, de près ou de loin, ressemblât à un médicament. Après une brève hésitation, il monta à l'étage qu'avait investi Madeleine, repéra sa trousse de toilette et mit la main sur ce qu'il cherchait. Heureusement que certains étaient organisés pour les autres. 2 Advil plus tard, il était dans sa chambre où il enfila ses vêtements de la veille avant de rejoindre la cuisine en quête d'un café noir. S'il y avait bien une cafetière, il n'y avait rien pour l'alimenter. Il eut beau ouvrir tous les placards, pas un paquet de café ne l'attendait, et il finit par se préparer, résigné, un bol de bouillon de poulet qu'il dégusta sur la terrasse. L'air frais lui fit d'abord du bien avant de le pousser à battre en retraite dans la chaleur du salon. Là, il explora la discothèque pour retrouver les disques dont lui avait parlé Pauline la veille. Ceux qu'écoutait en boucle Sean Lawrence dans les jours qui avaient précédé sa mort. Le premier vinyle était un must-have de toute discothèque classique, la 5e symphonie de Beethoven, dirigée par Carlos Kleiber. Au revers de la pochette, un musicologue rappelait la volonté qui avait animé le compositeur toute sa vie de saisir le destin à la gorge. De fait, la 5e était tout entière tournée vers la confrontation de l'homme et de sa destinée. Ainsi, le destin frappe à la porte, disait Beethoven, pour symboliser l'effet des 4 notes qui ouvraient sa symphonie. Le 2e enregistrement sentait bon les années 1980. Un coffret de 2 vinyles Deutsche Grammophon de la symphonie numéro 2 de Gustav Mahler, dirigée par Leonard Bernstein. Avec, en guest star, Barbara Hendricks et Christa Ludwig. Dite « résurrection », la 2e symphonie du compositeur autrichien n'était pas familière à Gaspard. La lecture du livret lui apprit qu'il s'agissait d'une œuvre religieuse, Mahler s'étant récemment converti au christianisme. Elle exaltait les thèmes de la vie éternelle et de la résurrection des corps. Les notes du livret s'achevaient par les paroles de Leonard Bernstein. « La musique de Mahler évoque trop sincèrement nos incertitudes touchant la vie et la mort. Cette musique est trop vraie. Elle dit des choses effrayantes à entendre. » Des choses effrayantes à entendre. Gaspard se gratta la tête. Pourquoi Lorenz, grand amateur de jazz et de musique minimaliste, s'était-il passionné à la fin de sa vie pour 2 symphonies monumentales? Il vida dans l'évier le reste de bouillon tiède et s'installa à la table du salon avec son cahier à spirale et son stylo pour réfléchir à l'écriture de sa pièce. Il eut du mal à se concentrer. Il avait passé une nuit étrange, presque planante, flottant dans ses songes au milieu des paysages psychédéliques tatoués sur le corps ligoté de la jolie voisine. Une vision pas violente, mais perturbante. Pendant une vingtaine de minutes, il réussit à se faire croire qu'il allait travailler, mais l'illusion ne dura pas. Il avait toujours l'impression que le grand portrait de Lorenz le regardait, l'appelait, le jugeait. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, Gaspard se leva et se planta à nouveau devant le mur de photos. Il comprit alors que ce n'était pas le cliché du peintre qui le dérangeait. C'étaient les photos du gamin. Le gamin mort, et pourtant si plein de joie et de vitalité sur les tirages argentiques. Bordel! C'était cette Madeleine Green qui, en lui faisant part de son malaise, l'avait contaminé. Il se laissa tomber dans le canapé, en soupirant. Dans la bouteille posée sur la table basse devant lui, le reflet ambré du whisky lui faisait déjà de l'œil, mais il résista à la tentation. Il fixa pendant plusieurs minutes un instantané sur lequel on voyait le petit Julian, assis à califourchon, se tenant triomphalement à la barre d'un antique cheval de bois. Face au carrousel, on distinguait la silhouette bienveillante de Sean Lorenz, les yeux posés sur sa progéniture. Gaspard fouilla dans son jean pour en extraire son portefeuille. Dans la pochette d'un des rabats, il trouva une vieille photographie aux couleurs passées qu'il n'avait plus regardée depuis des années. Lui, à 3 ans, avec son père, sur l'une des montures du manège Garnier, au jardin du Luxembourg. La photo datait de 1977. Presque 40 années séparaient les deux clichés. Ce n'était pas la même époque, mais c'était le même manège, la même lumière qui brillait dans les yeux des gamins et la même fierté qui teintait le regard des pères. 2. Madeleine gara son scooter à l'angle du boulevard du Montparnasse et de la rue de Sèvres. Il n'était pas encore 9 heures et pourtant l'air était déjà saturé d'une sorte d'humidité poisseuse. En retirant ses gants et son écharpe, elle remarqua qu'elle transpirait. Dire qu'on est censé être en hiver. Mais ce matin, quelque chose était encore plus préoccupant que le réchauffement climatique. Le quartier était méconnaissable. La manifestation de la veille avait tout ravagé et dévasté. Les abribus, les vitrines des magasins, les panneaux de signalisation. Sur les trottoirs et la chaussée, d'innombrables éclats de verre, des pavés, des morceaux de bitume arrachés. Un paysage de guerre, surréaliste, qu'elle n'aurait jamais pensé voir à Paris. Et partout, des centaines de tags rageurs qui défiguraient tout. Tout le monde déteste la police. Je pense donc je casse. En cendres, tout devient possible. Crève le capital. Victoire par chaos. On chie sur vos lois. L'attitude des passants la déconcerta. Certains, comme elle, étaient médusés, d'autres indifférents. D'autres encore, souriants et goguenards, s'arrêtaient pour prendre des selfies. Même le mur d'entrée de l'Institut national des jeunes aveugles était endommagé et salopé par les inscriptions haineuses. Cette vision de désolation lui donna envie de pleurer. Il se passait quelque chose dans ce pays qu'elle ne comprenait plus. En arrivant devant le centre médical dans lequel elle avait rendez-vous, Madeleine découvrit que ses vitres avaient elles aussi volé en éclats. Un ouvrier était en train de dégager une palette en bois qui avait servi de projectile pour saccager la devanture. Alors qu'elle hésitait à rebrousser chemin, l'homme comprit son trouble et lui désigna une pancarte de fortune qui précisait que l'établissement restait ouvert malgré les incidents. Elle entra dans le hall et donna son nom à l'accueil. Comme elle était en avance pour sa prise de sang, elle évita même la salle d'attente et l'affaire fut pliée en 3 minutes. L'aiguille, le tube à essai qui vire au rouge, un pansement au creux du bras. Puis on lui demanda de prendre l'ascenseur jusqu'au 2e étage, spécialisé dans la radiologie et dans l'imagerie. Pendant qu'on lui faisait son échographie, elle repensa à la conversation animée qu'elle avait eue la veille au soir avec Coutances. Si le dramaturge avait raison sur le constat, il avait tort d'être résigné et nihiliste, car il y aurait toujours des gens pour résister, pour se battre contre la violence sociale et pour ne pas se résoudre aux catastrophes annoncées. Et son enfant en ferait partie. Enfin, c'était vite dit, car elle n'était pas encore enceinte. Mais 4 mois plus tôt, alors qu'elle était en vacances en Espagne, elle avait franchi le pas et s'était rendue dans une clinique de fertilité à Madrid. Elle avait bientôt 40 ans et pas l'ombre d'une relation sérieuse à l'horizon. Même si les dégâts auraient pu être pires, il était indéniable que son corps vieillissait. Et surtout, son cœur n'avait plus la force d'aimer. Si elle voulait un jour un enfant, elle n'avait plus qu'une seule carte à jouer. Elle avait donc rempli un dossier, rencontré un médecin, pratiqué des analyses, pour se lancer dans une fécondation in vitro. Concrètement, cela signifiait qu'on allait extraire ses ovules et les féconder avec le sperme d'un donneur anonyme. Ce n'était pas forcément ce dont elle avait rêvé, mais elle s'était accrochée à ce projet, avec toute la force et tout l'enthousiasme dont elle était capable. Pour avoir un enfant, elle endurait un calvaire quotidien. D'abord, un traitement hormonal contraignant. Tous les soirs, elle s'injectait dans l'abdomen une dose d'hormones folliculostimulantes. Puis, tous les deux jours, elle se soumettait à une prise de sang suivie d'une échographie pour vérifier l'évolution du nombre et de la taille de ses follicules. Des résultats qu'elle devait communiquer elle-même, par téléphone, au personnel de la clinique espagnole. Ce traitement l'épuisait. Son ventre gonflait, sa poitrine se tendait, ses jambes pesaient une tonne et la migraine et l'irritabilité ne lui laissaient pas souvent de répit. La pièce était sombre. Alors que le médecin déplaçait la sonde d'échographie sur son bas-ventre, Madeleine ferma les yeux. Elle se persuada qu'elle avait pris la bonne décision. Elle allait avoir un enfant pour s'ancrer à la vie. Pendant trop longtemps, dans son métier, elle avait enquêté sur des morts. Mais les morts vous entraînent dans leurs ténèbres. Puis, elle avait tout donné pour l'amour d'un homme. Mais l'amour des hommes est fluctuant, fragile et capricieux. Pour se donner du courage, elle se remémora les mots d'adieu de quelqu'un qui avait compté pour elle. Danny Doyle, son premier amour de lycée, qui, en devenant l'un des parrains de la pègre de Manchester, avait suivi une trajectoire opposée à la sienne. Danny Doyle, à qui elle s'était confrontée une fois devenue flic, mais qui n'avait jamais cessé, de loin, de veiller sur elle. Je sais que tu es habité par la peur. Je sais que tes nuits sont agitées, peuplées de fantômes, de cadavres et de démons. Je connais ta détermination, mais aussi cette part de noirceur et d'autodestruction que tu portes en toi. Tu l'avais déjà lorsqu'on s'est rencontrés au lycée, et le cours des choses n'a fait que l'amplifier. Tu passes à côté de ta vie, Maddy. Il faut que tu sortes de cette spirale avant de basculer dans un précipice d'où tu ne reviendras pas. Je ne veux pas que tu aies cette existence. Je ne veux pas que tu prennes le chemin où je me suis perdu. Celui qui s'enfonce dans les ténèbres, la violence, la souffrance et la mort. La vie ne repasse pas les plats. Les occasions perdues le sont pour toujours. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie est un rouleau compresseur, un despote, qui tient son royaume en y faisant régner la terreur par son bras armé, le temps. Et le temps gagne toujours à la fin. Le temps est le plus grand exterminateur de l'histoire, celui qu'aucun flic ne parviendra jamais à mettre sous les verrous. 3. Gaspard se leva du canapé. Un téléphone portable, sans doute oublié par Madeleine, venait de se mettre à vibrer sur le comptoir de la cuisine. Ayant toujours refusé de posséder l'un de ces appareils, il le regarda un instant avec méfiance, mais il se décida tout de même à prendre l'appel. C'était Madeleine. Il commença une phrase pour lui répondre, mais interrompit par mégarde la conversation en effleurant l'écran au mauvais endroit. Il lâcha un juron et fourra l'appareil dans sa poche. Il soupira. Sa migraine s'était calmée, mais son esprit était encore embrouillé. Plus la peine de tergiverser, il lui fallait du café, et pas seulement une tasse. Il s'empara d'un des grands crus qu'il avait acheté la veille et sortit de la maison pour aller retrouver sa voisine préférée. Cette fois, Pauline de la Tour répondit dès le premier carillon. Comme si c'était le printemps, elle portait à nouveau une tenue légère, un short en jean effilé et une chemise militaire kaki ouverte sur un débardeur. « Un pinot noir contre un double expresso » proposa-t-il en agitant sa bouteille. Elle sourit et d'un signe de la main l'invita à entrer.